Nous allons continuer avec les paramitas. Nous avons vu, je les répète, parce que ce sont des qualités qui nous aident à valoriser la direction dans laquelle aller dans ce chemin intérieur. Nous ne les avons pas toutes explorées ici, mais la plupart d'entre elles. Il y a la détermination, la patience, l'authenticité ou la sincérité, la générosité, la bienveillance, l'énergie pour l'exercice de la méditation ou pour notre aspiration la plus profonde, le renoncement, la sagesse, l'éthique et l'équanimité. Ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Ce sont des puretés de l'esprit qui sont parfois là, que parfois nous avons à stimuler parce que nous nous souvenons « Ah, cette qualité-là est valable. » Ok, là je peux installer la patience ou la détermination ou le renoncement. Et avec l'équanimité, nous sommes vraiment dans des qualités de cœur, dans des qualités de compassion, de joie. Et l'équanimité, c'est une abondance de réceptivité intérieure et extérieure où il n'y a aucune réactivité. Le Bouddha a dit que seul un être éveillé peut vraiment vivre l'équanimité. Et dans le Dhammapada, il y a cette petite histoire qui donne un goût de ce à quoi le Bouddha fait référence. Je vous fais un très court résumé pour en arriver là où je veux en venir. C'est un père qui, pour différentes raisons, ordonne qu'on coupe les mains et les pieds à son fils adulte. Et sa mère se lamente, alors le père dit « Eh bien, qu'on lui coupe encore la tête. » Et le Bouddha dit au fils « Maintenant, le temps est venu de maîtriser ton esprit. Sois impartial envers ces quatre personnes. Ton père qui a ordonné que ta tête soit coupée, l'homme qui va le faire, ta mère qui se lamente et toi-même. » Ça, c'est l'équanimité. Alors, on est en chemin. Et bien sûr, pour pouvoir avoir cette impartialité, il est essentiel de comprendre la réalité du monde conditionné. Ce qu'on appelle le samsara, c'est une impression. Nous avons l'impression que ce monde est vrai, et donc nous identifions, et cette impartialité est impossible parce que nous sommes pris par des énergies qui nous dépassent et qui nous mènent dans la réactivité. Et il y a l'équanimité, c'est la conséquence, nous l'avons déjà vu, mais c'est tellement bon de s'en rappeler parce que le but, d'abord, ce que nous savons vraiment dans l'exercice de la méditation, c'est ce que nous avons pratiqué, ce que nous avons vécu en nous. Donc quand on parle de bienveillance, de compassion ou de joie, c'est pour vraiment pouvoir l'appliquer à l'expérience dans l'instant. Et il y a quatre qualités du cœur, a dit le Bouddha. Et la première, c'est la bienveillance, l'empathie. L'empathie, elle est possible envers nous-mêmes et envers les autres parce que nous avons appris à voir le réel et à voir combien l'expérience est imparfaite et combien nous sommes vulnérables, combien nous sommes réactifs, combien l'aveuglement fait partie de la vie, en nous et hors de nous. La bienveillance, c'est un antidote à l'aversion. C'est une non-aversion de l'expérience intérieure en moi-même, mais aussi de l'expérience que vit l'autre et que l'autre m'inflige parfois, et de la situation. J'amène l'empathie comme antidote à l'aversion. C'est une non-aversion. Et quelquefois, c'est possible, juste je me souviens, ah, mais il peut y avoir cette bienveillance. Je n'ai pas besoin d'être dur. Et la deuxième qualité, la compassion, le Bouddha a dit, c'est une non-cruauté. La compassion est une non-cruauté. Parce que lorsque l'expérience est douloureuse, et là je vous propose laisser venir une expérience qui est la vôtre à l'intérieur, l'expérience est douloureuse, et au lieu que je puisse lui ouvrir le cœur dans la compassion, il y a cette contraction qui fait que je tiens à distance, que je juge, que je fuis, que je prétends ou que je justifie, et tous ces rajouts à l'expérience sont de trop dans un chemin de purification. De simplement être sensible à l'énergie dans l'instant, c'est faire preuve de non-cruauté. Notre enfant intérieur est mal, et qu'il soit mal parce que j'ai la rage ou parce que j'ai la mauvaise volonté ou la méchanceté ou la tristesse ou la dépression ou l'inquiétude, peu importe, quelque chose est mal et je ne suis pas sensible à cette douleur, j'en fais quelque chose. Il y a cette dureté qui est là et qui est une forme de cruauté. Et bien sûr, nous l'appliquons aux autres. L'autre a quelque chose qui va mal, et alors peut-être qu'il vient vers nous. Et nous sommes là avec notre critique, notre jugement, nos conseils qui font que le cœur ne peut pas être ouvert. Quand je donne des conseils, d'une certaine manière, c'est que l'expérience de l'autre me fait peur. La troisième qualité dont le Bouddha a parlé, c'est la joie, et particulièrement la joie altruiste, la joie pour autrui. C'est une appréciation. Apprécier que l'autre soit heureux sans que nous ayons l'impression que nous manquons. La joie, c'est aussi quelque chose de très important, se souvenir de tout ce que nous avons déjà. Nous oublions vite. J'aime beaucoup quand Comte Sponville dit « Oh, mais combien on se désole lorsque nous tombons malades !» Mais qui se réjouit chaque matin en se réveillant d'être en bonne santé ? Il n'y a pas de barrière à la joie, c'est vraiment ce lien à la beauté du monde en nous et hors de nous. Un travail à faire. J'ai trouvé cette petite parole dans mes paroles. Les chanceux n'ont pas forcément le meilleur du meilleur. Ils prennent simplement le meilleur de ce qu'ils rencontrent sur leur chemin. Ça, c'est mudita, c'est la joie. Et dans les conditions les plus douloureuses, c'est Nelson Mandela qui parlait de sa prison dans les moments les plus durs où il était vraiment séquestré, où il n'avait qu'un petit carré pour marcher, mais il pouvait voir le ciel. Et il recevait tout de la couleur du ciel. Et l'équanimité, la quatrième de ces qualités, d'une certaine manière, c'est quand l'ouverture du cœur est au-delà, au-delà de l'expérience. Une totale non-réactivité. Sans condition. Inconditionné, c'est sortir du monde conditionné. Totalement gratuite. Donc toutes ces qualités sont plus que de la gentillesse. C'est un travail qui touche à la sagesse en même temps qu'il y a cette beauté, cette qualité du cœur. Là, il y a un moine qui est venu enseigner le week-end passé à Lausanne et puis lui employait le mot conscience, citta, la conscience, peut être traduite par l'esprit, par la conscience, mais ça peut aussi être traduit par le cœur. Non pas le cœur romantique et simplement généreux, mais vraiment le cœur dans le sens où la pleine conscience, dans sa capacité de voir, de reconnaître et de recevoir, c'est de la bienveillance. Quand je reçois mon énervement ou le sens du moi un peu jaloux, qui a besoin d'exister, qui se sent inférieur ou supérieur ou qui compare, juste être dans cet espace de réceptivité, c'est de la bienveillance. C'est quelque chose qui fait que je peux lâcher parce que je me sens aimée, reconnue. Et ça, c'est vraiment le cœur de la méditation. Comment reconnaître l'ombre pour lui permettre de lâcher. Il n'y a rien de mauvais dans la nature humaine. Rien. Pour la conscience. C'est nous qui créons le mal. En ne voyant pas le rôle profondément purificateur des énergies douloureuses et des émotions perturbatrices dans l'instant. Donc la présence à l'intérieur d'elle-même, par sa qualité, par sa réalité même, quand je suis là, il y a cette bienveillance qui est là et cette équanimité qui se développe. Et bien sûr, si je la rends consciente, c'est juste plus doux. La pleine conscience a quelque chose de plus tendre, de plus... ça fait plus de bien. Kuan Yin, c'est un bodhisattva chinois, bodhisattva de la compassion, et c'est une femme. Comme il n'y en a pas beaucoup, des fois c'est bien de parler de Kuan Yin. Par sa force de compassion, le cœur de Kuan Yin tremble de tristesse pour la souffrance du monde, mais grâce à sa sagesse, son esprit n'est pas identifié. Ça, c'est l'équanimité. Ressentir l'expérience sans créer une faute quelque part, un moi qui devrait être autrement, ou un toi qui n'est pas suffisant ou qui est trop. Donc la pleine conscience nous permet de voir l'expérience dans sa merveille et dans son horreur. la totalité. Et nous apprenons à voir combien ça change. Et de voir nos nœuds, de voir nos schémas, c'est quelque chose de sain. Nous faisons œuvre de sanité publique. Parce que ce que nous faisons en nous, nous le donnons aussi naturellement aux autres. Et ça ne veut pas dire que ce soit facile, c'est un défi. C'est un défi. Et le défi réside aussi dans la manière que nous tentons, à laquelle nous tendons d'établir la concentration. Ce n'est pas facile d'établir la concentration. La pensée est puissante. Revenir au corps et y revenir encore, j'espère que vous y êtes, juste maintenant. C'est quelque chose de fin, c'est juste un souvenir. Ok, je peux être là. Je peux écouter en étant là. Et quelquefois, c'est un peu décourageant. On a l'impression que ça n'avance pas, que j'en suis toujours au même point, qu'il y a toujours ces pensées et qu'elles m'emportent toujours et que j'arrive pas à être là plus de 5 minutes, 10 minutes. Au meilleur des cas, des fois, c'est une minute. Important de savoir que il y a l'exemple d'un moine qui balayait depuis des années devant la porte du Bouddha et il travaillait pour ses incarnations futures. Nous sommes là, nous faisons notre part avec humilité. La qualité d'humilité est importante. C'est pour ça que la patience, le renoncement, ce sont des qualités qui accompagnent le lâcher-prise. Bien sûr, nous aimerions y être déjà, complètement libérés. Quelquefois, c'est la méditation qui devient souffrance, parce que il y a cette ambition liée à l'exercice lui-même. Et c'est ok, il s'agit juste de voir. Et parce que nous faisons notre part d'établir tranquillement la concentration, alors la pleine conscience se fortifie et nous sentons très bien quand nous sommes dans la cible et quand nous n'y sommes pas. Ok, là il y a identification, il y a le sens du moi. Et nous n'avons pas besoin d'en faire plus que ce que c'est. Ok, il y a cette conscience, juste maintenant il y a eu le sens du moi. Maintenant, ça dure encore un peu, peut-être, quand le contact a été fort. Nous ne déconstruisons pas nos schémas d'un coup, mais ils se déconstruisent parce que nous apprenons à les rencontrer avec cette qualité d'équanimité. Et alors, le défi s'estompe, il y a moins de peur du jugement, moins de jugement par rapport à nous-mêmes. Il y a moins la peur d'être envahi, de perdre pied, d'être bloqué dans le cœur, dans le processus. Moins la peur de ne pas être aimé. Parce que la pleine conscience amène cette perception que nous appartenons à l'universel et que l'amour est là de toute éternité. Que c'est impossible que nous ne soyons pas aimés. Il n'y a rien à chercher, c'est là. Et ça ne veut pas dire que le monde est parfait, mais ça veut dire que cette beauté de ces qualités de cœur sont de plus en plus à disposition dans le pardon envers moi, envers l'autre, dans la gratitude, dans le souvenir d'être là. J'aime lire cette parole pour simplement comprendre, parce que c'est pas facile de jouer avec ces énergies qui sont à la limite du bien et du mal. Souvent, les gens demandent, mais qu'en est-il du chagrin et des jugements légitimes que nous pouvons éprouver devant l'injustice sociale, l'oppression politique et les relations abusives? Certainement qu'il y a des dommages légitimes et des injustices qui requièrent notre attention et notre action. Pourtant, si nous le faisons sur la base d'un jugement, insistant sur notre vertu et condamnant le mal chez ceux qui nous font du tort, il est peu probable que nous puissions agir d'une manière constructive qui mène à une paix vraie et à une justice accomplie. Parce que nous ne pourrons jamais changer l'autre, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Donc c'est à nous d'être notre propre maître. Et avec la pleine conscience, il s'agit de s'arrêter. Nous pouvons nous arrêter au milieu de notre quotidien, quand quelque chose nous titille. Ok, je m'arrête. Je me pose. Et je vois dans quelle mesure est-ce que je peux accepter juste maintenant cette énergie qui est là, en lâchant l'histoire. Mais juste maintenant, je m'intéresse. Qu'est-ce que j'expérimente juste maintenant? Ok, je suis profondément irritée. Et je lâche le jeu. Et je m'intéresse. Waouh, il y a l'irritation. Ok, irritation. Où est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que je peux le sentir? Ah, c'est là ou là, ou la tristesse, ou l'inquiétude. Et cet intérêt qui est non pas, il n'y a rien que je sache, je ne sais rien, mais je questionne, c'est quoi ça, c'est quoi? Il est par lui-même libérateur et purificateur. Et peu à peu, ce qui vient en priorité, c'est l'impermanence. Ah, je peux me souvenir. Ah ouais, ça a commencé. C'est encore en train d'être là. Ah bah maintenant, c'est plus là. Et je viens aussi avec cet intérêt simplement du sens du moi. Ah ouais, juste maintenant, le sens du moi est là. Il y a moi. Avant, il n'y avait pas moi. J'étais dans quelque chose de simple, de souple, de harmonieux. Et tout à coup, ça fixe, moi ou toi, ce qui est pareil. Et alors, nous pouvons vraiment questionner quel est l'effort juste. Être vrai est lâcher, voir est lâcher, voir est lâcher. Et tant que je ne peux pas lâcher, je peux voir, et à un moment donné, ça lâche. Et alors le refuge, au lieu que nous ayons ce refuge dans l'illusion que tout pourrait être parfait, que ce monde conditionné doit me donner ce que je veux, qui est la définition même de la souffrance, il y a cette possibilité de prendre refuge. Je prends refuge. Je prends refuge dans ce qui est essentiel, en moi et hors de moi, dans la conscience universelle, dans la bonté cosmique. Et plus traditionnellement, dans le Bouddha, Dharma, Sangha. Et c'est un abandon du moi. Quand je prends refuge, j'abandonne l'orgueil de pouvoir tout solutionner moi-même. J'accepte mes limites. Et je vais en acceptant mes limites, en voyant à quel point je suis limitée, ça me projette dans l'illimité, d'une certaine manière. Le fait de savoir que je ne suis rien me permet d'être tout. Mais là, nous touchons à... nous sortons de l'équanimité, qui est vraiment cette qualité de cœur qui fait que je sais que je pourrais être l'autre je connais le mystère et j'accepte ce mystère. J'aimerais finir par une histoire vraie qui illustre l'interconnexion et la fraternité entre tous les êtres. C'est une histoire qui est racontée par le responsable d'un centre de réhabilitation pour délinquants juvéniles. C'est une forme de pardon menée jusqu'à sa substantifique moelle. Un adolescent avait tiré et tué un jeune de 14 ans pour prouver son appartenance à son gang. Au procès, la mère de la victime resta assise impassible jusqu'à la fin du réquisitoire où l'adolescent fut condamné pour meurtre. Après le verdict, elle se leva lentement et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « Je vais te tuer ». Ensuite, le jeune partit servir pour plusieurs années dans le centre fermé de réhabilitation. Un an après la perte de son enfant, la femme vint visiter le meurtrier. Il vivait dans la rue avant son arrestation et elle était le seul visiteur qu'il avait. Elle lui apportait un peu d'argent, des cigarettes et il parlait de ce qu'il vivait. Peu à peu, elle lui rendit visite plus régulièrement, lui amenant de la nourriture et lui faisant de petits cadeaux. Vers la fin de son temps d'emprisonnement, elle lui demanda ce qu'il allait faire à sa sortie. Il fut confus et très incertain car il n'avait nulle part où aller. Elle lui proposa un job chez un de ses amis qui avait un garage. Et puis elle lui demanda où il allait vivre. Et comme il n'avait aucune famille, elle lui proposa de venir dans sa chambre d'amis. Pendant 8 mois, il vécut chez elle. Ils mangeaient ensemble et ils travaillaient au garage. Un soir, elle l'appela dans le salon. Elle voulait lui parler. Elle s'assit en face de lui, resta en silence, puis elle dit « Te souviens-tu quand j'ai dit que je voulais te tuer au tribunal lors de ton procès ?»« Pour sûr que je m'en souviens, » dit-il. « Eh bien, » dit-elle, « je l'ai fait. Je ne voulais pas que le garçon qui a tué mon fils sans raison reste en vie sur cette terre. Je voulais qu'il meure. Alors quand je l'ai pu, je t'ai rendu visite. » Je t'ai apporté à manger, je t'ai trouvé un job et je t'ai invité dans ma maison. Et ainsi tu as changé. Le jeune que tu étais n'est plus là. Et je voudrais te demander, puisque mon fils est mort et que le tueur a disparu, si tu veux rester ici, j'ai de la place. Et peut-être, si tu es d'accord, je pourrais t'adopter. Et elle devint la mère du tueur de son fils, la mère qu'il n'avait jamais eu. La possibilité de changer par l'amour.